France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le film, dont il va être question, au futur certes, mais un futur proche, personne ne l'a jamais vu, hélas. Lorsqu'Henri Chappier, alors critique au journal Combat, rencontra Luchino Visconti à Cannes en 1971, durant le festival, tout était pourtant bien avancé. Scénario, repérage, décor. Et surtout, il y avait l'immense envie du réalisateur de s'attaquer à Marcel Proust. Voici cet entretien, réalisé après la projection de Mort à Venise et à la veille de la proclamation du palmarès. Première diffusion sur France Culture, le 3 juin 1971.
Luchino Visconti, j'ai l'impression que Proust est vraiment l'auteur de qui vous vous sentez le plus proche. Alors j'aurais aimé savoir, en remontant un peu dans votre enfance ou votre adolescence, quels ont été, si vous voulez, les points de choc avec l'univers proustien.
Vous savez, la première fois, j'étais, je crois, assez jeune, parce que c'était en 22, 23, quand la première édition de Swann est arrivée en Italie. J'étais pas un enfant, mais enfin, j'étais assez jeune. Et je me rappelle que mon père m'avait dit un jour, je suis en train de lire un livre qui m'est arrivé hier. J'ai commencé cette nuit à le lire, et je suis tellement fasciné que je souffre à chaque page que je tourne parce que je pense que ça sera bientôt fini. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, j'étais déjà très l'oreille au guet, et j'ai dit, donne-moi le livre après, dès que tu l'as fait. Et il m'a passé le livre, dès qu'il était, c'était du côté de chez Swann. C'était la première fois que j'avais un contact avec Proust. J'étais pas seulement fasciné, mais abasourdi. Et depuis là, après j'ai eu mille occasions de lire et relire Proust, mais surtout pas seulement la recherche. Vous savez, tout ce qui est autour. Et à fur et à mesure que quelques nouvelles éditions sortaient, qu'on retrouvait des lettres, qu'on a retrouvé le Jean Santeuil et tout ça. Enfin, tout ça, c'était une nourriture quotidienne.
Vous m'avez dit une fois qu'il y avait une technique proustienne qui vous paraissait stimulante et passionnante à retransposer au cinéma.
Oui, c'est vrai, je peux le répéter. C'est la même chose. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez une mémoire de fer formidable, très dangereuse. Faites une interview avec Chappier. mais c'est vrai, et je peux le répéter maintenant. Je ne sais pas si dans le film suivra cette technique exactement, mais évidemment, je dois en tenir compte absolument.
Alors, par exemple, le flashback est une chose que vous n'aimez pas.
Non, je n'aime pas, sauf dans le cas où c'est absolument nécessaire. Mais il faudra trouver une façon de, pas de faire des flashbacks, mais de unir le passé et le présent, et de, vous comprenez, de faire une espèce de amalgama de tout ça, qui est au fond le résultat de la recherche. Le temps n'existe pas, le temps, si on le retrouve, on l'abolit, et voilà, on le retrouve. Où le temps qu'on a perdu devient un temps vécu si on en fait une œuvre d'art. C'est ça, au fond, le thème.
À quelle nécessité obéit votre rencontre avec les grands noms de la littérature ? L'étranger, c'était Camus. Le guépard, c'était Lampedusa. Mort à Venise et de Thomas Mann. Et Proust est votre prochain sujet. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, quelle est la motivation, quelle est la nécessité de ces choix?
Alors, pour vous répondre, il faut que j'aille encore un peu plus loin de ce que vous avez été. Je veux remonter même à la Terre tremble, au fond. Parce que la Terre tremble, au fond, aussi, était influencée par un grand romancier italien, qui est Giovanni Verga, et surtout par son roman Les Malavoglia. Alors, moi, j'avais l'intention de réduire pour le cinéma Les Malavoglia, mais j'ai pas eu la possibilité d'avoir les droits d'auteur. Alors finalement, j'ai fait Les Malavoglia, mais en transposant l'histoire de la famille à l'époque moderne, enfin à l'époque où je tournais le film. Je veux dire que d'avoir été influencé par la grande littérature, ce n'est pas une chose récente, c'est une chose très ancienne pour moi. Rocco et ses frères aussi étaient très influencés par Dostoïevski, vous le savez, parce qu'au fond, le thème principal de Rocco est l'idiot de Dostoïevski, transposé naturellement dans un autre milieu, et il y a encore l'influence aussi d'un écrivain italien. Mais je veux dire que j'ai toujours répondu à ce genre de questions, pourquoi j'étais influencé par la littérature, ou pourquoi je choisissais la littérature. J'ai toujours dit que même en faisant des histoires originelles, comme par exemple Les Damnés, on est toujours un peu influencé par la littérature qu'on connaît, enfin par la culture dans laquelle on est immergé. Et que pour être un vrai grand metteur en scène de cinéma, il faudrait être absolument incultivé, ne rien savoir et naître aujourd'hui. Enfin, vous comprenez ça, sans avoir derrière soi une culture qui n'est pas faite seulement d'œuvres littéraires, mais qui est faite d'œuvres de peinture, de musique et de toutes les arts qui ont précédé le cinéma de plusieurs siècles. Voilà la raison de l'influence de la grande littérature. Particulièrement, L'Étranger était vraiment L'Étranger de Camus, et maintenant, Mort à Venise est un conte de Thomas Mann, dont je connais assez bien l'œuvre, que j'aime beaucoup et qui m'a sûrement beaucoup influencé. J'aime aussi d'autres œuvres de Thomas Mann, qui sont La Montagne Magique ou bien Le Docteur Faustus, dont on sent quelque chose aussi dans Mort à Venise, dans mon film, je veux dire. Et prochainement, Marcel Proust.
Oui, mais la question que je vous ai posée, au fond, en entraîne une autre. Je sais qu'un jour, vous avez déclaré à une conférence de presse qu'il était assez ridicule de vous demander pourquoi vous prenez, par exemple, la musique de César Franck ou de Mahler, pourquoi vous aimez tel ou tel peintre ou tel poète. Et vous avez répondu, évidemment, un homme de culture ne peut finalement retrouver dans son œuvre que les réminiscences de tout ce qu'il a aimé dans son enfance et sa jeunesse. Absolument. Mais alors, ce qui serait très intéressant de comprendre, c'est pourquoi à un moment donné, si vous voulez, de votre carrière de cinéaste, il y a tout à coup la rencontre avec Camus. Est-ce que ça correspond aussi à une période, à un contexte social et historique donné, parce que vous avez, ce sont des œuvres que vous fréquentez depuis toujours. Donc, la raison pour laquelle un jour vous allez d'un côté plutôt que d'un autre, là, il y a sûrement une raison plus profonde.
Oui,
et j'aimerais
je peux vous répondre tout de suite. C'est que, par exemple, quand vous me parlez de Thomas Mann, ou vous me parlez de Marcel Proust, ou vous me parlez de Dostoïevski, je peux vous dire que tout ça est vraiment dans ma vraie vie culturelle. La rencontre avec Camus était un peu, c'était autre chose, c'était un peu différent quand même. Ce n'est pas un des auteurs essentiels, vous comprenez, pour moi. Et c'était un peu une rencontre occasionnelle, disons, naturellement, avec tout le respect que je porte à l'œuvre de Camus. Mais justement, je crois que c'est de mes films le moins réussi, justement parce qu'il n'y a pas tellement de coïncidence entre moi et l'auteur que j'ai tâché de réduire pour le cinéma. Mais les autres, Thomas Mann, Proust, Verga, disons Dostoïevski, etc., sont beaucoup plus liés à moi, enfin, plus vraiment dans ma préparation culturelle. Ce sont vraiment ces souvenirs, ce sont vraiment ces influences qui datent de mon enfance, presque. Camus est différent. Et en effet, c'est le film qui n'est pas complètement réussi.
Mais vous avez aussi dit, dans une interview récente, vous avez dit qu'au fond, il vous semblait que le cinéma pouvait populariser, enfin pour employer ce néologisme, les grands chefs-d'œuvre littéraires.
Et ça, je le pense encore. Je crois que c'est un peu un des devoirs du cinéma de vulgariser les grandes œuvres littéraires. C'est pour amener un certain public très vaste, qui est le public du cinéma, à s'approcher des grandes œuvres, des grands auteurs littéraires, ce qui n'arriverait pas peut-être très souvent. Enfin, je ne sais pas si l'œuvre de Proust en France est une œuvre complètement acquise et comprise et fréquentée, disons, par le public. Mais je crois que donner un aperçu de la recherche du temps perdu dans le cinéma pourrait stimuler les gens à revenir à l'œuvre de Proust.
Mais justement, à ce propos-là, il y a quelques 15 volumes, enfin ça dépend de l'éditeur et du format, mais disons que...
Prenons la Pléiade, ils sont quand même 3 volumes, énormes,
Ou l'équivalent des 15 tomes de bibliothèque habituelles qu'on avait, disons, il y a quelques 15 ans. Eh bien, quel est votre choix? Parce que là, on sait que vous allez faire un film sur Proust, sur des aspects de l'œuvre, et j'aurais aimé savoir quel itinéraire vous allez emprunter.
Le problème qui se posait en faisant une réduction de la recherche du temps perdu, enfin, les problèmes étaient pas un seul, mais 3. on aurait pu faire les deux premiers volumes, disons, du côté de chez Swann, et faire un film de ça, de l'histoire de Swann, que vous savez très bien, est une histoire un peu à part à la recherche. C'est une histoire complète en soi-même, on aurait pu faire un film, et je dirais même que c'était la chose qui se proposait le plus facilement à un réducteur pour le cinéma. Et comme c'était un peu trop facile, j'ai écarté cette idée, naturellement, parce qu'on cherche toujours les difficultés. Après ça, il y avait une autre solution, qui était le temps retrouvé. C'était partir du temps retrouvé et refaire à reculons, disons, la recherche du temps perdu. Mais ça posait un autre problème pour moi, au point de vue cinématographique, qui m'énervait, qui me déplaisait. C'était de partir avec tous mes personnages vieillis, vous comprenez ? Qui s'était fait une tête, comme dit Proust, naturellement, mais se faire une tête en écrivant sur une page, c'est très beau. Même l'image que Proust donne de ça est très, très saisissante. Mais de le faire en réalité dans des images, ça aurait été horrible, parce que j'aurais dû prendre des comédiens d'un âge, enfin, normal, moyenne, et les vieillir en mettant du coton hydrophile sur la tête pour faire les cheveux blancs. Ça, c'est une chose qui me déplaisait beaucoup. Alors ça, j'ai écarté cette idée. L'idée était de commencer par la grande réception Guermantes, la matinée Guermantes, et retrouver tous les personnages et avec eux refaire la route à reculons. Troisième solution, qui est celle que j'ai adoptée, j'ai pensé de prendre le centre, le cœur de la recherche, et de donner ce grand fresque d'une société, qui est la société française de ce moment, du faubourg, et de ce qui se peu à peu se détruit dans cette société et se change dans cette société. Alors j'ai pris, disons, entre les jeunes filles en fleurs et la fugitive. Et ça, j'ai tâché
De condenser
dans un seul film. Naturellement, moi j'avais proposé d'en faire deux, mais naturellement, les producteurs n'ont pas aimé cette idée, cette proposition. De condenser dans un film de 3 heures et demie, disons 4 heures, tout ce qui va de le premier Balbec, disons, au bombardement de Paris de la guerre de 14. Enfin, de finir le film sur les scènes très dramatiques de l'hôtel de Jupien et le métro, et les gens qui se perdent dans le noir du métro, et donner cette impression, enfin, de
fin d'un monde.
De complète, comment est-ce qu'on peut dire, décomposition d'une société dans le monde. Naturellement, je dois mettre le point surtout sur ce que, dans le roman, fait partie des deux volumes de Sodome et Gomorre. Donc, certaines mœurs, certaines habitudes, certaines attitudes dans la société de ce moment-là. J'ai pu condenser un peu l'histoire dans deux grandes histoires d'amour et de jalousie, qui sont les histoires qui se passe entre Marcel et Albertine, Charlus et Morel. Ça, je crois, c'est vraiment les deux filons sur lesquels j'ai basé ma réduction. Et de faire ces deux grandes histoires d'amour qui s'entrecroisent et qui sont à peu près, au fond, la même chose. Des histoires d'amour, des histoires de jalousie et des histoires d'amour qui finissent dramatiquement et très mal.
Il y a un point qui va intriguer beaucoup de gens, je crois, et j'avoue que je suis perplexe. Dans la distribution publiée de temps à autre dans les journaux, on apprend que le narrateur sera un personnage incarné. Alors là, c'est une question qui m'intéresse beaucoup personnellement.
Oui.
Parce que lorsqu'on lit le livre, enfin, on imagine par moments le narrateur.
Oui.
Mais quand même, on n'en a pas, si vous voulez, une espèce de forme évidente.
Oui, alors, mais écoutez, la raison de tout ça, c'est que je n'aurais pas aimé mettre une voix
off
qui raconte. La recherche du temps perdu, ça, je n'aurais pas supporté, et je crois que le public n'aurait pas supporté. Je crois que ce sont des moyens vraiment qu'on ne faut plus user. Alors j'ai pensé que c'était mieux d'objectiver le personnage du narrateur et faire ce que Marcel raconte de lui-même et qui objective. Non pas seulement dans la recherche, mais pour arriver à faire ce travail d'objectivation, j'ai pris aussi Jean Santeuil, j'ai pris Contre Saint-Beuve, j'ai pris d'autres œuvres de Marcel, qui me permettent plus de objectiver le personnage du narrateur, vous comprenez? Alors le personnage du narrateur est devenu vraiment le protagoniste du film.
C'est ça qui est un peu dur à comprendre.
Mais pourquoi?
A priori,
vous comprenez, si Marcel avait usé d'une autre méthode au fond, en racontant, si disons il avait usé plus sur la méthode de Balzac, disons, on pourrait très bien mettre en scène Lucien de Rubempré ou Rastignac. Allez, à la même manière, je tâche de mettre en scène Marcel, qui, un tout petit peu, est soit Lucien, soit Rastignac. Au fond, c'est aussi un, escaladeur social. C'est quelqu'un qui tâche d'entrer dans un monde qui n'est pas son monde, qui l'attire, qui le séduit, et pour, sur lequel, après, il a des terribles déceptions. Parce que les conclusions de Marcel sont... Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de rapports sociaux, il n'y a rien. La société est quelque chose de très aride et de très...
Ingrat.
Donc, oui. Nous supposons que Marcel ait fait la même opération que Balzac a fait pour mettre en scène Lucien, pour mettre en scène Rastignac, qui sont un peu lui-même dans Balzac. Alors, j'ai fait un peu le même...
Travail.
J'ai suivi un peu le même procédé. Vous comprenez? C'est assez clair ou pas?
Oui, oui, absolument. Oui. Non, mais c'est une question qui va intéresser tout le monde, certainement.
Mais ça, c'est bien. Il faut
qu'il y ait l'équivalence au cinéma du narrateur n'est pas très facile, d'autant que
pas très facile, mais quand même, si vous regardez bien dans les pages de la recherche, si Marcel ne se décrit pas tellement, les autres le décrivent. J'arrive à dire, les autres, comme tout le monde est attaché à lui, tout le monde aime Marcel, tout le monde tombe amoureux de Marcel. Albertine, André, Rosemont, Gisèle, toutes les jeunes filles. Elstir, Oriane, Charlus, la fameuse grande scène de Charlus de jalousie, la scène chez lui, la scène chez lui la nuit et tout ça, c'est que Marcel s'objective très bien dans un jeune homme assez séduisant aussi, charmant, séduisant, qui plaît beaucoup à tout le monde, parce que tout le monde tombe amoureux de Marcel. Ça, personne ne l'a noté dans la critique, mais c'est vrai. Donc Marcel se voit un espèce de Lucien de Rubempré, disons, pour trouver un exemple.
Avec un recul tout le temps.
Naturellement, justement. Naturellement.
Et alors, ce rôle serait tenu par Alain Delon.
Alain Delon, primo, parce que je veux absolument que ce soit un Français. On m'avait proposé des grands noms aussi, américains et tout ça. Mais l'idée que Marcel soit un Américain, c'est une chose que vraiment je ne peux pas supporter. Je crois qu'Alain, à ce point de sa carrière... ayant fait des films qui n'ont rien à voir, naturellement, avec La Recherche d'un perdu, mais à ce point de sa carrière, et en le connaissant comme je le connais, comme je l'ai eu autrefois dans d'autres films, je crois que je pourrais faire une version du narrateur qui soit assez près de ce que je vois, moi, du narrateur. Vous comprenez, c'est peut-être pas exactement ce que aurait accepté M. Proust s'il était vivant. Mais je crois quand même que oui, M. Proust aurait accepté Alain Delon. Ça, je vais vous le dire.
Oui, oui. Et il aurait d'ailleurs son âge.
Il aurait d'ailleurs son âge et son charme. Au fond, dans le narrateur, il y a un charme extraordinaire. C'est un charme. Enfin, si vous lisez toutes les biographies sur Proust, tout ce qu'il y a sur Proust, chacun qui l'a connu, au fond, était séduit par son charme. C'est son charme, un charme un peu orientalisant, un charme un peu... enfantin presque, n'est-ce pas, la douceur, la gentillesse et tout ça. Alors je crois qu'il faut créer le personnage. Et puis je prends beaucoup à modèle Jean Santeuil, je dois dire, parce que dans Jean Santeuil, Marcel s'est vraiment vu lui-même, plus que dans La Recherche. Dans La Recherche, il y a en plus une espèce de voile où il a voulu un peu se cacher derrière, mais dans Jean Santeuil, c'était plus clair, c'était lui.
Et alors, pour les autres personnages principaux, pourriez-vous nous dire ce que vous savez?
Il y a des problèmes énormes, vous savez, mais ça vous pouvez comprendre qu'il y a des problèmes énormes. Surtout, le grand problème est Charlus. Alors, le grand problème est Charlus, pour lequel je n'ai rien encore de fixé, mais pour lequel j'ai des contacts avec des acteurs. Je peux vous dire qui sont les acteurs, parce que j'ai des contacts, mais rien de fixé. Numéro un, pour moi, c'est Laurence Olivier, qui pourrait faire un Charlus extraordinaire. Numéro 2, c'est dans une version tout à fait différente, mais avec une certaine force, quand même, c'est Brando. Troisième version, c'est Scofield. Voilà, c'est ces trois possibilités. Pour Oriane, vous le savez, c'est Sylvana Mangano, et peut-être ayant vu Mort à Venise, vous pourrez comprendre pourquoi je pense à elle comme Oriane. pour Albertine, je n'ai personne, mais je veux inventer une Albertine absolument inédite. Je veux l'inventer avec une fille, une jeune fille française de 18 ans, 17 ans. Pour Morel, j'ai Berger, qui me semble parfait, pour son côté comme ça, un peu. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai la...
Madame Verdurin.
Madame Verdurin, c'est Edwige Feuillère, dont je suis terriblement convaincu.
Oui.
Parce que vous devez penser que le vrai modèle de Madame Verdurin était Madame de Caillavet, qui était une très belle femme. Qui était une très belle femme, un peu, comment vous, je peux vous dire, un peu autoritaire. Avec France, on sait tout, enfin, on sait tout de sa vie avec Anatole France et tout ça. Donc, c'est ça. Mais c'était une très belle femme. C'était une femme charmante et séduisante et tout ça. Donc, Madame Verdurin, il ne faut pas la voir comme une femme laide ou vieille. Non, non, c'est une femme encore dans tout, dans le plein de son âge, sa force et son autorité, son égoïsme, sa, comment pourrais-je dire, sa exclusivité de ses amis, de son noyau et tout ça. Alors, je pense qu'Edwige pourrait faire une Madame Verdurin extraordinaire.
Oui, on la voit très bien dans la sonate de Vinteuil.
Oui, oui, oui.
Le grandin.
Mal à la tête et tout ça, pardon.
À ce moment-là, dans cette adaptation, il y a aussi le grandin, il y a aussi Norpois, il y a une foule, il y a Saint-Louis.
Il y a beaucoup d'autres, il y a Madame de Vuparisis, il y a Rachel, Camp de Seigneur, il y a Saint-Loup, il y en a beaucoup. Quoique j'ai dû un peu renoncer à quelques-uns. Malheureusement, j'ai dû renoncer à Bloch, j'ai dû renoncer à Elstir, j'ai dû renoncer à quelques-uns, mais évidemment, j'ai pris ceux qui me servaient pour suivre un certain chemin.
Est-ce que la version originale de ce film sera en langue française?
Ah oui, absolument. Absolument. Comment pouvez-vous penser qu'on puisse faire autrement? Mais il faudra faire une version anglaise aussi. Vous savez, ça c'est pour le marché. Vous savez très bien que les films ont besoin surtout du marché américain et anglais. Surtout un film qui a un budget assez gros.
Alors comment voyez-vous, étant donné que dans le monde entier vous avez la réputation d'être un puriste et qu'on connaît les mois de travail que vous prenez sur un doublage quand c'est nécessaire, comment allez-vous procéder justement pour une version anglaise?
Je crois qu'on fera les deux versions, vous savez, on fera les deux versions simultanément. On tournera en français, la version française, et tout de suite après... la version anglaise. Je crois que c'est ça le procédé le meilleur. Celui qui nous fera perdre moins de temps et moins d'argent.
Et donc, dès le départ, il y a l'équivalence des dialogues en anglais que
absolument.
Vous avez personnellement...
Je crois que ça, c'est le système meilleur à faire. Mais donnant la précédence à la version française, oui. Car je crois que je pourrais avoir des crises d'hystérie si j'entendais pour la première fois Proust jouer en anglais. C'est quelque chose qui ne m'entre pas dans les oreilles, enfin. Alors, quand je serai satisfait de la version française, j'aurai entendu les mots de Proust, je pourrai, à la rigueur, dire, bon, faisons-le en anglais aussi, et tant pis, je fermerai les oreilles à ce moment-là.
Il y a une autre question qui me préoccupe un peu. Elle est à moitié naïve, je dois dire. Dans Mort à Venise, il y a un côté... évocation du temps perdu. Bien entendu, ce n'est pas du tout le même thème.
Mais vous savez, Chapier, c'est autre chose, parce que dans Mort à Venise, c'est 1911, strictement. C'est deux mois, un mois même, de cette année. Dans Proust, je commence en 1896. Je commence là. Alors, c'est tout à fait autre chose. Puis j'aurai 1903 ou 4, qui est tout à fait autre chose que 11. Et puis j'aurai 14, 16. Alors vous voyez, c'est déjà un tel changement dans les trois moments où je ferai le film que je crois qu'il n'y aura aucune ressemblance ni affinité avec Mort à Venise.
Est-ce que le tournage est prévu vraiment géographiquement dans les lieux...
Absolument. La Normandie, Cabourg, Trouville, pour certaines choses... Doncières, j'ai presque décidé de le faire à Bayeux, qui est une ville qui est restée malgré la guerre et malgré l'opération de Normandie, qui est restée presque intacte dans certains coins. Alors je crois que je ferai Doncières là. Vous savez que Doncières est très discuté, si c'est Fontainebleau, si c'est Versailles, si c'est Orléans, si c'est autre chose. Je crois que j'ai trouvé dans Bayeux un climat qui me semble très juste pour Doncières. Balbec, c'est Cabourg, parce que l'hôtel est encore là, heureusement, encore pour très peu de temps, je crains. Parce que aussi, je vois qu'en France, on détruit tout comme en Italie.
Oui, absolument.
Oui,
partout,
on m'a dit qu'on va détruire l'hôtel. Alors, pour le moment, je l'ai trouvé, il est exactement le même. Le casino a subi quelques transformations, mais on va le retransformer. Trouville, les Frémont, qui est la Raspellière, comme jardin, comme arrivée, comme situation, est parfaitement celle-là. Je crois que la maison, Proust pensait au château de Réveillon plutôt. Il plaçait le château de Réveillon dans la situation des Frémont, vous comprenez? Il a toujours fait des combinaisons comme ça. Alors, je devrais faire un peu le même montage que Proust a fait.
Pour Paris, excusez-moi. Oui, et pour
Paris. Alors, à Paris, j'ai beaucoup peiné pour retrouver des situations qui soient celles. Enfin, la plus grande préoccupation était l'hôtel Guermantes, naturellement, avec la grande cour. Des appartements différents, les boutiques, la boutique de Jupien, les autres boutiques. Ça, j'ai rien trouvé qui soit exactement comme ça, mais je vais modifier des choses que j'ai trouvées et je crois que j'arriverai à redonner. Vous savez, on fait toujours ça dans le cinéma, par exemple. Pensez que Donna Fugata dans Le Guépard n'existait pas. Moi, j'ai trouvé une petite église qui me plaisait beaucoup et deux ou trois petites maisons de paysans tout près. Alors, j'ai refait le palais, la façade du palais de Donna Fugata. Et j'ai pu avoir la petite place et l'église qui était là, qui était une église vraie et ancienne et très belle. Je ferai un peu, j'aurai un peu ce procédé pour reconstruire les situations proustiennes.
Et alors pour la musique, qui est toujours une question qui vous passionne.
Oui, mais la musique, c'est pas très difficile en Proust, vous savez, parce qu'on a des indications qui sont très précises. D'abord 500, c'est la base de la sonate. Vinteuil est vraiment 500, il y a aussi César Franck, il y a Rinaldo Hahn, il y a Fauré. Enfin, il y a de la musique qu'on connaît, pour laquelle on peut faire des choix, et je crois que je trouverai la sonate, la vraie sonate avec la petite phrase.
Cet entretien entre Henri Chapier, alors critique au journal Combat, et Luchino Visconti a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 3 juin 1971. Il avait été enregistré durant le festival à Cannes, après la projection de Mort à Venise et à la veille de la proclamation du palmarès. Rappelons que cette année-là, Luchino Visconti avait reçu le prix du 25e anniversaire du Festival international du film pour Mort à Venise et pour l'ensemble de son œuvre.